Je vous souhaite à tous les bienvenus très cordialement dans le nom précieux de notre Seigneur. Nous saluons aussi tous ceux qui sont en direct liés avec nous, online, et je crois pouvoir dire que cela se propage. Nous avons même de la porte Morris, je crois que c'est l'endroit le plus éloigné qu'on pourrait entreprendre et atteindre d'ici, derrière l'Australie, à côté de la Nouvelle-Zélande, et beaucoup écoutent et se réjouissent avec nous de la parole précieuse de Dieu, et on part à ce que Dieu fait dans le présent. Nous avons tout un nombre de salutations et beaucoup de mails, et aussi des salutations de la Russie, de la Finlande, de la Moldavie, de l'Ukraine, de l'Afrique du Sud, du Congo, de Colorado, oui, de beaucoup de pays et de langues, de Palermo. Ensuite, nous avons des salutations de l'Iran en langue perse. Cela m'intéresserait. Est-ce que quelqu'un connaît le perse pour que nous puissions traduire ce que les frères veulent nous dire? Le frère Graf remet la salutation. Et aussi les frères de l'Afrique du Centre, Dr Mbille remet ses salutations, Dr Lotika remet ses salutations, les frères de Johannesburg, de Kapstadt et de partout remettent les salutations fraternelles. De Nairobi, je le vois ici, du Pérou, Lima, de partout, des frères nous saluent. Et le frère de Kinshasa, oui, tous les frères remettent les salutations très fraternellement. Je vois ici aussi des Philippines, oui, de partout. Et c'est ainsi que nous remercions le Seigneur de ce qu'aujourd'hui, ici, nous pouvons être rassemblés, réunis. Nous avions eu jeudi quelque chose de particulier. Il y avait eu donc un mariage particulier qui avait eu lieu. Nous avons eu aussi des visites de la République de la Tchèque particulièrement, et nous souhaitons à tous de tout notre cœur les riches bénédictions de Dieu, que ce soit de la Tchèque, que ce soit de la Pologne, que ce soit de la Slovaquie. Nous avons des amis ici de l'Italie, des amis de l'Autriche, de la Suisse, de la Belgique, de la France, oui, de toute l'Afrique. Et nous sommes vraiment de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur de ce qu'il nous a accordé sa parole. Et cette pensée m'est venue aujourd'hui, alors que Pierre a écrit ses épîtres directement dans les premiers versets. Il écrit que Paul, dans les derniers versets, il a écrit que Paul a écrit des choses qui étaient difficiles à comprendre, et que ceux qui sont mal affermis et ignorants tordent le sens pour leur propre perdition. Et quand nous regardons dans notre temps pour leur propre ruine, quand nous regardons dans notre temps, il y a aussi beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre, qui nous ont été transmises. Mais nous avons la grâce, pour l'honneur du Seigneur, de le dire. Celui à qui le Seigneur ouvre l'intelligence et la compréhension pour les Écritures, il a reçu le secours et la grâce du Seigneur pour toujours. C'est ainsi que pour lui, toutes les questions sont répondues et les paraboles sont ouvertes, et tout ce qui n'est pas clair devient clair. Et nous saluons particulièrement tous les frères dans le ministère. Nous nous réjouissons de ce qu'un plus grand nombre de frères dans le ministère sont parmi nous, et que Dieu puisse bénir tous. Ensuite, nous avons une visite particulière du Ghana. de Théma, Ghana, et nous allons demander à notre frère T, maintenant, qu'il puisse venir nous saluer, et nous allons demander au frère Fitzek qu'il puisse venir et traduire rapidement, mais que cela ait lieu et que cela soit traduit pour tous, pour que tous puissent bien le comprendre. Chantons un chœur et vous venez déjà devant. Oh, je voudrais voir celui qui est mouru pour moi. Le frère Fitzek n'est pas venu. Loué soit le Seigneur. Nous vous apportons les salutations de tous les saints du Ghana. Et nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il nous est dit que nous vivons toujours encore dans les jours de la Bible.
John came in the spirit and anointing of Elijah to turn the heart of the fathers.
Jean vint dans l'esprit et dans la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères aux enfants. Et ma Bible me dit qu'ils ont entendu Jean prêchait et ont suivi Jésus. Aussi, notre frère Branham vint dans l'esprit et l'onction telle que Élie l'avait pour ramener le cœur des enfants à leur père. Ce sont seulement les enfants dont le cœur sera retourné au Père. C'est ainsi que nous aussi nous pouvons dire en tant qu'enfants aujourd'hui que nous avons entendu les prédications de frère Branham, mais nous suivons Jésus-Christ. Et nous avons Jésus dans la simplicité par la révélation reconnue. Et ça, c'est la base sur laquelle nous bâtissons. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous attends tous auprès, je m'attends à vous revoir tous au festin des noces de l'agneau. Alléluia, chantons bald, ya bald, bientôt ce sera merveilleux. Ya. Yeah.
Das
Ça, avec droit, nous pouvons le dire. Cela aura lieu bientôt. Je crois que si aujourd'hui nous lisons ça comme introduction dans 1 Pierre chapitre 4, nous le faisons bien. 1 Pierre chapitre 4, versets 7 et 8 et 9 et 10. La fin de toutes choses est proche. Je crois que tous, nous avons compris, aussi dans les dernières semaines, que nous sommes rapprochés très proches de la fin. Et ensuite, nous est demandé, et j'espère que tous nous avons bien prêté l'oreille, l'insistance dans les petites paroles, les quelques mots que notre frère a prononcés ici devant, consistait à ce que les cœurs des enfants de Dieu, pas les têtes, car c'est dans les têtes qu'on discute, qu'on se querelle, mais c'est dans le cœur qu'on croit. Et c'est ce qui est important. Peut-être encore la remarque, notre frère T, dans son pays, est au-dessus de toute mesure béni et utilisé par Dieu. Je crois que l'année dernière, nous avions eu dans les réunions à Théma plus de 4000 personnes rassemblées. Et tous croient la parole du Seigneur. Tous sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour de tels frères de tout notre cœur. Que Dieu te bénisse richement. Merci beaucoup. Oui. Ici, nous lisons encore. La parole est adressée à nous dans 1 Pierre chapitre 4, la deuxième partie du verset 7. Soyez donc sages et sobre pour vaquer à la prière. Très, très important. Aussi dans la prière, il faut qu'on soit sobre. Simplement, avec deux pieds placés sur le fondement de la parole de Dieu. Rester fondé sur la parole de Dieu dans la prière et croire comme l'a dit les Écritures. Ensuite, au verset 8, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Cet ardent amour divin couvre tout, croit tout et espère tout et supporte tout. L'amour est le lien de la perfection divine. Et si nous voulons arriver à la perfection, c'est seulement dans l'amour divin possible. Ensuite, ça continue ici. Au verset 9, exercez l'hospitalité les uns les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Maintenant, une parole adressée à nous tous, principalement, peut-être même à tous, mais particulièrement à ceux qui prêchent la parole. C'est à eux que cela est particulièrement adressé. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pour que, en toutes choses, dans chaque prédication qui est apportée, dans chaque réunion qui est tenue, que ce soit Dieu le Seigneur qui soit glorifié, et cela en tout temps, qu'il reçoive ce qui lui revient de plein droit. Et que ce soit à lui seul que toute la gloire soit apportée. Avec cela, faisons mention à nous qui prêchons la parole, qui avons prêché la parole. Il y a un verset dans le prophète Amos, au chapitre 5, et ici il est écrit, je lis le verset 7 et 8. Oh, vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice, il a créé les Pléiades et l'Orient, il change les ténèbres en Orient, il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Ça, c'est une parole adressée à ceux qui prêchent la parole, la prédication de ceux que le Seigneur envoyait, que Dieu envoie. Et le peuple a toujours et toujours changé le droit en absinthe et foulé à terre la justice. Nous devons considérer cela ainsi et savoir que cela, que c'était comme ça du temps de notre Seigneur. Il a lu le verset 7 et le verset 10. Il haït celui qui les reprend à la porte. Et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Verset 10. Et c'est le temps. Et cette parole est adressée à ceux qui prêchent la parole. Et nous devons comprendre. Comme c'était du temps du Seigneur, ils n'ont pas reconnu ceux. Ils n'ont pas reconnu le jour de la visitation du Seigneur. Beaucoup de religions, beaucoup de réunions, beaucoup de choses. Mais ils sont passés sans prendre part et reconnaître ce que le Seigneur faisait dans leur temps. Mais la même chose se répète. Le verset 7 et le verset 10 d'Amos 5 se répètent. Ce sont des choses dans lesquelles nous ne voulons pas rentrer dans les détails. Ça ne sert à rien. La fin de toute chose est devant la porte. Il n'y a pas de solution pour les problèmes du monde et non plus pour Israël. La solution pour Israël, c'est Dieu le Seigneur qui lui-même la trouvera. Et maintenant, ce qui se passe maintenant, ce qui est en train d'arriver entre le Vatican et Israël, il s'agit seulement, n'est-ce pas, de ce qui doit être encore soumis à la possession du Vatican pour que encore plus de pouvoir soit émis. Mais Dieu le Seigneur, lui, il veille sur sa parole. Et l'heure pour Israël est aussi très, très proche. Ce qui m'occupe particulièrement, ce qui nous occupe, ce qui nous concerne, ce qui m'occupe particulièrement, c'est que les rabbins les plus connus, les plus donc les plus éminents passent leur temps à demander au pape avec des arguments que c'est seulement quand le temple sera rétabli que le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur pourra donc prononcer, n'est-ce pas, ce nom, car le Vatican prétend qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Yahvé, alors qu'il est écrit, n'est-ce pas, que là où le Seigneur révélera son nom, c'est là que son peuple doit se rassembler et sera béni de lui. Mais ça, nous devons malheureusement dire que le couvercle, le voile est encore sur les Juifs et sur tous les peuples. Sur tous les peuples, si ce n'est que Dieu l'ôte et que nous et qu'ils aient la grâce de reconnaître la révélation de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ne voulons pas ici entrer dans les détails de ces choses, mais de quoi il s'agit ici pour Dieu notre Seigneur? Il s'agit de nous. Il s'agit de nous amener dans l'obéissance de la foi pour que réellement la foi et l'obéissance et la foi soient en accord ensemble. Nous avons eu à parler de ce que le premier amour doit revenir. Les premières œuvres doivent revenir. Nous devons revenir au premier amour, revenir au commencement. Nous avons eu aussi à parler de ce que le frère Branham avait eu la vision du paradis et qui lui avait été dit que c'est seulement l'amour divin qui rentrera là-bas, qui rentrera ici. Et nous devons, avec l'aide de Dieu et par la grâce de Dieu, dans l'amour divin, aboutir à la perfection qui est au-dessus de toute connaissance, au-dessus de tout cela. L'amour de Dieu et la paix de Dieu, qu'elle puisse gouverner et remplir nos cœurs et nos pensées. Mais bien-aimés, il y a des hommes qui disent, celui qui croit le message avec cela a déjà la certitude qu'il sera auprès du Seigneur dans la gloire. La première question est la suivante. Quel message? De quel message ici il s'agit? Il est question. Il y a beaucoup de directions, de différentes directions. Non, celui qui est en accord avec Dieu et la parole de Dieu, celui qui a l'amour pour la vérité. Et le Saint-Esprit nous conduit, n'est-ce pas, dans toute la vérité. Nous voulons lire quelques versets bibliques concernant l'amour et ensuite de la loi et ensuite de la grâce pour nous représenter devant les yeux que tout ce qui a sa place dans le dessein de Dieu, la grâce, la loi, avait une place dans le royaume de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est l'amour qui a été manifesté et l'accomplissement de tout ce que Dieu, dans la loi, avait exigé, est devenu possible. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il, et ça c'est le centre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils seul engendré de lui pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient en lui la vie éternelle. C'est ainsi que l'amour de Dieu, ici sur terre, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, a été manifesté. Lisons dans l'Évangile de Jean, le chapitre 13, l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 et 35.
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
Diese aufrichtige,
cet amour sincère, ardent, divin, qui ne tient pas compte de la personne et de ce que la personne a fait. Cet amour qui ne tient pas compte de la personne et de ce que la personne a fait, mais de se considérer dans l'amour de Dieu et de s'accepter, de se recevoir dans l'amour de Dieu tel que Dieu lui-même en Christ nous a accepté. Et ensuite, le verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et tout de suite après, au verset, au chapitre, chapitre 15,
versets 9 et 10,
comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ici, nous avons déjà le contexte, c'est-à-dire de demeurer dans ce que Dieu, dans sa parole, a ordonné ou bien exige ou demande. Ensuite, nous voyons dans Romains 13, nous avons ensuite cette description de ce que l'amour de Dieu a produit en nous. Et l'amour de Dieu ne fait aucun mal à l'autre, au prochain. Romains 13, verset 8 jusqu'à 10.
Bleibt niemand etwas schuldig?
Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Toute la loi est accomplie dans celui qui aime les autres. Et si c'est ainsi que, si je regarde, les Juifs ont 613 commandements. Combien en ont les Écritures, je ne sais pas. Mais ici, il est clairement exprimé que celui qui demeure dans l'amour de Dieu, il a accompli toute la loi. C'est en lui que l'accomplissement de la loi vit. C'est en lui que ce que Dieu exigeait dans l'Ancien Testament est accompli en lui. C'est ainsi que le vieil homme ne peut pas accomplir les exigences de Dieu. C'est seulement le nouvel homme qui se soumet à Dieu et qui, dans la foi, reçoit les paroles de Dieu. Ensuite, lisons le verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensuite arrive la couronne au verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si nous considérons cela exactement, c'est ainsi que Dieu a donné la loi pour nous convaincre de la transgression. Lisons dans Galates, le chapitre 5, ici nous lisons, à partir du verset 13, Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Mais servez-vous par amour les uns les autres. Pas dans des vouloir avoir raison, bien vouloir savoir mieux les choses, mais servez-vous les uns les autres dans l'amour. Encore le verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ensuite, que cela soit dit, malheureusement, l'apôtre, malheureusement, vient à constater cet état désastreux dans les assemblées locales. Et ici, il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est difficile de lire de tels versets. Mais cela, il y a toujours eu un problème qui a existé. Et le problème consistait à ce que des hommes n'étaient pas morts avec Christ. Leur vieil homme, ils n'ont pas réellement expérimenté une conversion réelle et une nouvelle naissance, et leur propre moi et leur propre caractère est encore toujours présent. Si on considère l'un avec l'autre ces trois versets, la fin du verset 13, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Ensuite, verset 15. Ensuite, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ensuite, la constatation triste. Mais, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, si parmi vous, cela ne peut pas s'accomplir, si Dieu ne peut pas produire cela, que son amour, son amour divin entre vous, les uns les autres, parmi vous, soit manifesté, soit visible dans vos rapports avec les autres, mais que vous vous mordiez les uns les autres et vous dévorez, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Bien-aimés frères et sœurs, je le dis avec un cœur sincère. Ma constatation est que l'amour de Dieu en nous tous a cru. Ma constatation est que nous estimons aussi les uns les autres, nous nous aimons les uns les autres, et que nous prions les uns pour les autres. Et ça n'a jamais été ainsi comme c'est maintenant. Et c'est ainsi que Dieu a son chemin avec nous. Et je constate que l'amour de Dieu les uns pour les autres, l'amour les uns avec les autres et pour les autres, ça croît. Et je voudrais encore lire des versets qui traitent ce sujet. Jacques, dans le chapitre 2, lis le verset 8 jusqu'au verset 13. Ici, il est écrit,
wenn ihr das königliche Gesetz nach dem Schriftwort,
si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, ici il s'agit de l'accomplissement de la loi royale, du 11e commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parlant de du premier commandement, le plus important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Nous disons amen à cela. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Donc, sans favoritisme, chacun est pareil devant Dieu. Il n'y a pas de différence entre nous. C'est ainsi que l'amour de Dieu en nous tous doit vivre et doit triompher. Sans favoritisme. Ensuite, nous lisons verset 10 et 11, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Réfléchissez un peu, Dieu n'a pas seulement donné 10 commandements, il a donné beaucoup de commandements sur la nourriture, sur beaucoup. Il y a beaucoup de commandements. Et si un homme observerait tout, mais transgresse un seul, est coupable de tout. Et Dieu a voulu cela ainsi pour que chacun de nous ne puisse pas comme ça lever le nez, gonfler la poitrine et dire « Moi, cela ne m'a pas attrapé » ou bien « Cela ne me concerne pas ». Non, mais que tous nous soyons convaincus du péché par la loi et que ainsi nous soyons livrés à la grâce. D'abord, la condamnation vient et ensuite la grâce suit. Un homme qui n'a pas été condamné ne peut pas recevoir la grâce. Et la loi a été donnée justement pour cela, pour nous condamner, pour que la grâce de Dieu soit manifestée. Oui. Et ensuite, avec cela, nous pourrions en fait repartir directement à 1 Jean, le chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, où il nous est dit que chacun, verset 9, 1 Jean, chapitre 3, verset 9,
der aus Gott erzeugt oder geboren ist, tut keine Sünde.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Qui de nous pourrait transgresser les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu et vivre comme ça avec une bonne conscience, continuer à vivre malgré tout avec une bonne conscience? C'est pas possible. Dieu nous a accordé la grâce de vivre, de pouvoir vivre sa parole et la mettre en pratique sans nos propres efforts. Ensuite, à partir du verset 4, il est écrit, au verset 4, 1 Jean 3, verset 4, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Maintenant, le verset 7, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Et si ensuite nous allons à Romains, le chapitre 8, ici il est montré le juste par la celui qui est déclaré juste par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, et l'œuvre accomplie de la rédemption. Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour aucun de nous, il y a une condamnation. La condamnation a été placée sur notre Seigneur. Il a porter tous les péchés, toute la condamnation. Et nous avons la grâce d'être délivrés. Ensuite, nous lisons au verset 3, dans Romains 8, verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est en cela que notre foi se repose. L'œuvre de la rédemption est accomplie. La loi a sa place, la grâce a sa place. Ensuite, nous lisons verset 4. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Encore un verset qui concerne ce sujet. Romains 13. Ici, nous avons la parole merveilleuse. Romains 13. À partir du verset 8. Ne devez rien à personne. Nous avons déjà lu cela, mais faisons-le encore. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et encore, le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bien-aimés frères et sœurs, nous pourrions encore lire tout un nombre de versets bibliques qui parlent de l'amour. Nous avons mis l'importance là-dessus. L'amour à Dieu et l'amour à la vérité. Et ça, c'est en nous devenu vrai. Que Dieu lui-même a fait en sorte que cette liaison intime à lui et à sa parole pouvait s'accomplir. Et ça, c'est aussi un grand don de notre Dieu. Et ça, je le dis en regardant à toutes ces différentes interprétations à l'intérieur du message, à l'intérieur, donc parmi le message et parmi donc dans ce que Frère Branham a dit et dans ses citations. Ici, à cet endroit, tout est clair. Et pourquoi est-ce que c'est clair pour nous? C'est parce que nous avons toujours considéré la parole de Dieu comme la dernière autorité valable. Et que, par la grâce de Dieu, nous avons pu ordonner tout à sa place, placer tout à sa place. Il y a un point, par exemple, qui m'aide sur le cœur. J'ai la citation avec moi de la prédication de Frère Branham du 17 mars 63, où Frère Branham a fait cette citation que ce septième ange est sur terre pendant le temps où l'ange de l'Alliance, Apocalypse 10, descend. Et c'est de cette citation qu'une incompréhension terrible a apparu, disant que le Seigneur doit être déjà revenu pendant le temps des jours de Frère Branham ici sur cette terre. Et imaginez-vous, une fois, nous avons déjà eu à sortir cela de l'Internet. Et ici, il n'est réellement pas écrit le septième ange, mais ce septième ange, pas le septième ange, mais il est écrit bien ce septième ange, c'est-à-dire faisant mention de, du septième ange des trompettes. Donc il n'est pas dit le, mais ce septième ange. Ensuite, dans Apocalypse, nous voyons que au chapitre 10, au verset 7, c'est l'annonce qui est faite, mais dans Apocalypse 11, au verset 15, il est dit que l'ange sonne la trompette et nous voyons le royaume établi. Et au chapitre 10, au verset 7, cela est annoncé à l'avance. Comment est-ce que cela allait s'accomplir? Pour moi, c'est précieux. C'est précieux quand on respecte chaque verset et qu'on lit exactement comment est-ce que c'est écrit. Pour comprendre aussi ce qui a été dit et comment est-ce que ça a été dit, respectant le contexte et comprendre où est-ce que cela doit être placé. Et savoir comment est-ce que les choses ont été ordonnées par Dieu dans son ordre. Et imaginez-vous un peu, j'espère, que les frères ne nous en veulent pas, mais presque tous dans le message croient à cause de cette incompréhension que William Branham était le septième ange duquel il a été fait mention dans cette citation, parce que frère Branham ici dit, c'est pas moi qui le dis, c'est ainsi dit le Seigneur, je vous le lis de la Bible. Et ensuite, pour eux, c'est ainsi dit le Seigneur. Et ensuite, il le lit même de la Bible. Mais il le lit de la Bible, s'il vous plaît. Et dans la Bible, il est écrit, il est parlé du septième ange des trompettes. Et ensuite, il dit, mot à mot, ce septième ange est sur terre pendant le temps de cette venue de l'ange de l'Alliance, Apocalypse 10. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons faire que prier. Nous pouvons que prier pour que Dieu puisse lui-même, dans les pensées, dans les cœurs de ces hommes, apporter cette correction. Et cela dans toutes les langues, les nations et les pays. Que ce soit Dieu lui-même qui le fasse. Car l'Église de Dieu n'a pas mérité d'être conduite dans la confusion. L'Église épouse sera appelée de toute la confusion, de tout le désordre, pas pour encore être conduite dans un désordre et dans une confusion. Des hommes qui n'ont pas un ministère, qui n'ont pas été appelés, osent interpréter les Écritures ou bien alors expliquer ce que frère Branham a dit. Je vous dis, pour moi, de telles choses sont très importantes. Il n'y a qu'une seule vérité, et cette vérité, elle, on ne peut pas la diviser et la partager. On ne peut pas non plus, comme ça, être de deux côtés en même temps. Non. Notre position, nous devons la prendre une fois pour toutes à 100% pour la parole de Dieu. Et quelqu'un pourrait peut-être penser, « Oh, frère Franck, c'est beaucoup ce que tu dis. » Non, c'est tout ce que Dieu a à nous donner. Nous sommes et nous revendiquons être une parole épouse, une épouse parole. Donc, aucune interprétation a le droit d'exister parmi nous, mais seulement la parole de Dieu, et encore une fois la parole de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Et c'est ainsi que nous reconnaissons comme c'est important de croire, comme le dit les Écritures. Et c'est ainsi que nous reconnaissons aussi comment est-ce que c'est important, comme le Seigneur l'a dit. Je vais, mais l'Esprit de la vérité vient, et c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Ici, et ça je le dis ce soir, ouvertement, nous avons réellement parfois aussi un problème avec les traducteurs, les traductions des Bibles. Ici, par exemple, notez-vous ce verset, 1 Corinthiens 15, verset 23. lors de sa venue. Dans la Bible anglaise et dans toutes les autres Bibles, il est seulement écrit lors de sa venue. Mais ici, il est écrit lors de son retour. Mais 1 Corinthiens 15 ne parle pas d'une venue, mais parle de son retour. Ici, il est dit lors de son avènement. Et ici, c'est en relation avec la première résurrection et la transformation de nos corps et l'enlèvement. Dans Jean 14, au verset 3.
Und wenn ich hingegangen bin und euch die Städte bereitet habe, komme ich wieder.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai. Et ensuite nous lisons pour que tous puissent savoir aussi tous dans les autres langues, où est-ce que cette place, où est-ce que ce mot avènement a été mal utilisé, malheureusement, dans les différentes traductions. Ne me demandez pas pourquoi, mais nous pouvons remercier Dieu parce que Martin Luther était un homme qui réellement attendait le retour du Christ. Et il disait, si je savais que le Seigneur revenait demain, aujourd'hui encore, je planterais mon arbre. Et il a réellement traduit fidèlement mot à mot, comme c'est écrit dans le texte original, primitif. Je lis dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, au verset 23. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, ou bien retour. Ici, on ne peut pas dire lors de sa venue, parce qu'il y a plusieurs venues, mais lors de son avènement, lors de son retour. Je vais vous préparer une place et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 23 est dans le contexte de son retour, de son avènement. 1 Corinthiens chapitre 2, ici nous avons la même parole, 1 Thessaloniciens le chapitre 2, verset 19. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour, de son avènement. Alors, il est écrit dans toutes les autres traductions lors de sa venue. Mais l'Église a donné la promesse, elle est la promesse qu'il revienne. Toutes les autres ne sont pas des promesses. Toutes les autres auront lieu sans promesse. Son retour est une promesse, a été promis. Je vais pour vous préparer une place, une demeure, et je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous vous savez ce que le mot veut dire et ce que cela veut dire. Ensuite, nous avons dans 2 Pierre, particulièrement dans 2 Pierre, le premier chapitre, ici nous avons la promesse qui a été encore mentionnée ici en relation avec le retour du Seigneur. Dans 2 Pierre, le chapitre 1, et ici, nous lisons à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Que nous vous avons fait connaître la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, dans 2 Pierre chapitre 3, ici encore, dans toute la clarté, il est dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 4, ils disent, disons le verset 3 avant le verset 4, 2 Pierre chapitre 3, verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement, de son retour? Il a promis de revenir. Et ici, il a été écrit là-dessus. Pas seulement Dr. Deschner a écrit là-dessus et s'est moqué de cette promesse que le Seigneur a promis de revenir et qu'autrefois, on attendait déjà son retour et qu'aujourd'hui encore, il n'est pas encore revenu et que cela ne s'est pas encore accompli. Tous nous savons que Dieu a un temps, et qu'il ne va pas venir trop tard, il ne va pas tarder, mais que tout va s'accomplir au temps convenable. Et que nous n'attendons pas en vain. Nous n'attendons pas en vain. Notre Seigneur revient, il revient dans notre temps. Lisons encore le verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Toujours, l'importance est mise sur le mot retour et promesse, sur le mot promesse. La promesse de son retour. On dit, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Non, cela ne restera pas comme ça. Dieu va accomplir sa parole. C'est pour ça que donc, il est écrit au verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Résumons cela pour tous nos frères, particulièrement dans les autres langues, où pas une seule fois dans tous ces versets que nous avons lus, dans des Bibles, ils n'ont pas utilisé le mot retour, mais ils disent venu, lors de sa venue. Il s'assiera sur le trône de sa gloire et il y a plusieurs venues et tout, pardon. Il viendra, s'assiera sur son trône de gloire et les nations seront devant lui. Ou bien alors, comme c'est écrit dans le chapitre 2, il viendra et il mettra aussi, comme c'est écrit dans Zacharie, sans pied sur la montagne des Oliviers, etc. La Bible parle de plusieurs venues du Seigneur, mais ici, il s'agit de son avènement, de son avènement promis, de son retour promis. Je vais, pas seulement une venue, mais un retour, un avènement. Je vais pour vous prendre, je vais vous préparer une place et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Pour que vous soyez là où je suis. Tous les frères, dans les différentes langues, s'il vous plaît, acceptez cela ainsi, dans cette Bible, vous pouvez le lire. Parfois, on entend particulièrement des traductions qui sont âgées de 400 ans, de combien d'années passées. Comment est-ce que la traduction avec effort a pu être faite? Mais nous pouvons réellement remercier le Seigneur de ce qu'il y a eu des hommes qui ont expérimenté d'abord une conversion réelle. Ce n'est pas seulement qu'ils maîtrisaient une langue, mais ils avaient aussi une expérience avec le Seigneur et avaient aussi la révélation pour pouvoir traduire. Résumons de quoi il s'agit ici et de ce qui a été dit. Dieu a donné des promesses et a donné la loi et a donné la grâce et toute chose à sa place, toute chose à sa place. Et ensuite, c'est ainsi qu'il a dans notre corps, dans notre cœur, déversé son amour par le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut se l'accorder. Ça, c'est une expérience avec Dieu. Une expérience avec Dieu. Et la plupart, cela est lié au baptême de cet esprit, que toute la plénitude de l'amour de Dieu habite et est déversée dans nos cœurs. Que ce n'est pas seulement des dons qui sont exercés, mais toute la plénitude de l'amour de Dieu est visible. Où est-ce que tous ont abouti avec tous leurs dons? Où est-ce qu'ils sont allés avec tous leurs dons? Regardons les mouvements pentecôtistes, regardez tous les dons qui sont exercés. Ceux qui sont le plus contre le message, ce sont les soi-disant pentecôtistes. Ils nous font le reproche que nous rejetons la Trinité et que nous rejetons le baptême trinitaire, etc., etc. Les plus grands adversaires du message sont justement parmi les pentecôtistes. Mais nous remercions Dieu de ce que il n'est pas seulement resté à donner des dons, mais il nous conduit plus loin par son esprit dans sa parole. Comme notre frère déjà au commencement le disait, ça c'est la promesse principale qui avant le retour de Jésus-Christ doit s'accomplir. Et devait s'accomplir que le cœur des enfants de Dieu, maintenant, soit ramené au Père apostolique et qu'à la fin, il soit cru comme au commencement, il a été cru. Et cela est en accord avec ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 6. Vous, mon peuple, pas vous tous qui, ici, tenez des réunions charismatiques et croyez ce que vous voulez. Non, tout en croyant ce que vous voulez. Mais vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur, séparez-vous, mon peuple. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être que je vous dois de vous dire encore rapidement quelques paroles sur le voyage qui a eu lieu en février au Pakistan. En général, je le fais au commencement de la réunion, mais l'appel et l'ordre de notre Seigneur de prêcher l'évangile du royaume à tous les peuples, les langues et les nations, la bonne nouvelle du royaume, et que c'est ainsi qu'après la fin viendra, a lieu. Et si maintenant, je me rappelle aux six réunions qui ont eu lieu dans quatre villes, à Karachi, à Lahore, à Islamabad, à Rawalpindi, et il y a eu au moins 2000 personnes qui ont écouté la parole du Seigneur. Et tous, nous avons, n'est-ce pas, par les médias, entendu et pas eu les meilleures impressions du pays, mais jusqu'à maintenant, les chrétiens, dans leur petit quartier, c'est-à-dire là où ils sont séparés, des musulmans, des appartements des musulmans, c'est là que les chrétiens ont la liberté, comme nous ne l'avons pas ici, en fait. Dans chaque réunion, je vous dis que les haut-parleurs sont même dans les rues. Et tout le quartier peut aussi écouter la parole de Dieu et a écouté la parole de Dieu. Et parfois, les réunions ont duré jusqu'à minuit. Donc, nous remercions Dieu. Aussi dans un pays islamique, Dieu a son peuple, a ses élus qui sont appelés à sortir et qui maintenant écoutent la voix de Dieu. Et alors que particulièrement ces deux frères, je ne sais pas si je devrais les nommer de nom, me disaient frère Franck, alors qu'en 1972, c'était venu pour la première fois au Pakistan, ici. Nous étions présents. Et regardez maintenant le fruit que Dieu, dans le déroulement des années, j'ai été souvent là-bas, et maintenant j'ai vu le fruit, j'ai pu voir le fruit qui a produit. Tous sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tant qu'on peut le constater, sont demeurés dans l'équilibre et dans la parole. Ça, aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu de trouver des frères qui restent, demeurent dans l'équilibre et qui aussi restent dans l'équilibre et qui retrouvent le message dans la Bible et la Bible dans le message, mais qui n'en font pas deux choses, mais qui retrouvent le message dans la Bible et la Bible dans le message. Et c'est ainsi que Dieu a béni et il continue à le faire et qu'il nous bénisse aussi pendant ce week-end. J'ai dans le cœur que particulièrement tous les jeunes qui n'ont pas encore fait une expérience du salut avec Dieu, qu'il la fasse aujourd'hui. Je ne sais pas si nous pourrions venez tous devant, mais il est écrit. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, pas si vous l'entendrez demain, mais si vous entendez sa voix aujourd'hui, s'il vous plaît, acceptez l'appel. La chorale nous a chanté ce merveilleux cantique. Come home. Reviens à la maison, reviens à la maison. Le Seigneur appelle encore. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. La conversion doit avoir lieu avant toute chose. Pas simplement dire je crois au message. Bien sûr que frère Branham, une fois, a dit à des gens qui étaient baptisés de cet esprit que le meilleur signe que vous ayez reçu vraiment le Saint-Esprit, c'est que vous croyez la parole que Dieu a promis pour cette heure, pour ce jour, pour cette époque. Cette citation a été aussi tordue et ils disent, si on croit la parole, alors on est baptisé de cet esprit. Imaginez-vous une telle chose. Bien-aimés frères et sœurs, tout a été transformé et tordu et renversé sur la tête. Tel que, depuis le commencement, a été tordu. Comme par exemple, faisons la manante image. Ils ont transformé, ils ont tordu, ils ont interprété toutes ces citations de la Bible. C'était comme ça que cela s'est répété encore. Et cela est une douleur. Et la responsabilité que nous avons est que nous puissions donner seulement raison à Dieu en toutes choses. et donner raison toujours seulement aux Écritures et nous soumettre aux Écritures pour qu'il puisse avoir son chemin avec nous et comme dans l'amour divin, nous puissions dans l'amour divin, oui, arriver à la perfection. Et l'amour est envers Dieu, envers sa parole et envers les uns les autres. Et c'est le Seigneur qui le produit maintenant en nous, tous, que nous puissions tous comprendre tout de la bonne manière. Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de à cause du Seigneur, parce que c'est lui qui l'a promis, et c'est ainsi que c'est lui qui nous ouvre l'intelligence et la compréhension pour toute l'Écriture. Nous pouvons aussi mettre Apocalypse 10 à sa place, comme Apocalypse 8 et Apocalypse 11 à sa place, et tous les autres chapitres, nous pouvons les mettre à leur place. Et tout cela par la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas une propre opinion et une propre connaissance, seulement parce que nous nous sommes laissés enseigner par Dieu et par le Saint-Esprit, conduits dans toute la vérité. C'est peut-être donc que réellement, nous demandons à tous les frères, dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues et les nations, de vivre dans la crainte et de revenir à Dieu et à sa parole, de revenir à la crainte de Dieu et à la parole de Dieu, d'examiner si tout ce qu'on entend est exact, est en accord avec les Écritures. Et c'est comme ça que Dieu nous accordera d'aller de l'avant et que nous allons pouvoir mettre la loi à sa place et ensuite aussi la grâce à sa place et rien mélanger. Mais nous allons pouvoir mettre tout dans l'équilibre à sa place et comprendre la signification de chaque chose et aller de l'avant par la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui me disait, je crois que c'était aujourd'hui, déjà aujourd'hui, oui, que le message dans un temps très court, très rapide, a atteint les extrémités de la terre. Et quand nous pensons à ce que aujourd'hui il y a des personnes qui écoutent en direct du monde entier, que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Oui. Amen. Oui. C'est merveilleux de ce que Dieu a conduit les choses ainsi. Nous sommes aussi reconnaissants de ce que ici, en 10 langues, nous pouvons écouter en direct et que dans ces 10 langues, il peut être écouté et avec nous s'approfondir dans la parole de Dieu. Et ensemble, nous allons de l'avant jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Encore aujourd'hui, le Seigneur, par sa parole, a parlé avec nous. Combien ont compris ? Combien ont compris ? Parfois, c'est un peu difficile, n'est-ce pas ? Parce que ce ne sont pas tous qui connaissent ces sujets. Mais tous ceux qui savent, qui connaissent l'importance de ces choses, remercions Dieu dans toutes les langues, les peuples et les nations, pour ce qui nous est montré ce soir, à cet endroit. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant, que tous puissent revenir à marcher dans le même pas pour que nous puissions tous croire et enseigner ce que les Écritures disent. Et que ce ne soit pas une seule parole qui soit interprétée, mais que tous nous puissions demeurer dans la parole et dans l'amour. Que Dieu le Seigneur bénisse tous dans le monde entier, qu'il nous bénisse, nous tous qui sommes ici rassemblés. Nous allons appeler tous ceux qui veulent consacrer leur vie au Seigneur. Amen. Levons-nous. Et nous chantons le chœur tel que je suis, sans rien de moi. Et ensuite, nous allons transmettre l'appel du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, Dieu le Seigneur est présent. Notre Sauveur a donné la promesse qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons compris que nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce. S'il vous plaît, particulièrement à tous les jeunes, acceptez l'invitation, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Croyez que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Croyez que le Rédempteur, dans sa chair, dans le corps de sa chair, a réellement porté sur lui toutes nos fautes et nos transgressions. Pas dans son corps spirituel comme il était dans l'Ancien Testament et marchant dans le jardin d'Éden, mais dans son corps de chair. C'est ainsi qu'il a porté tout ce que l'homme a hérité par la chute. Il a versé son sang précieux. Il a fait la nouvelle alliance et il appelle tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos et du rafraîchissement pour vos âmes. Ne cherchez pas dans ce monde la paix ou le repos, c'est trop tard. Vous n'allez pas le trouver. Vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez dans ce monde. Comme un cantique le dit, ils cherchent ce qu'ils ne trouvent pas dans l'amour, dans le bonheur et la joie. Ils reviennent chargés de péchés et insatisfaits. Ce monde n'a rien à vous accorder pour l'éternité. Ce monde vous conduit dans la perdition. Laissez-vous sauver. C'est ainsi que le prophète Esaïe le dit. Et que tous, dans tous les endroits, tous ceux qui n'ont pas encore consacré leur vie au Seigneur, qu'ils puissent le faire maintenant. Alors que nous sommes dans la prière devant le Seigneur et que nous prions maintenant les uns pour les autres, je voudrais demander, pendant que personne regarde autour de lui, celui qui veut lever les mains pour montrer que vous voulez consacrer votre vie au Seigneur. Avons-nous quelques-uns ici? Merci, 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 merci. Partout, partout des mains se lèvent. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Nous voulons prier. Père céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions pour la grâce, pour le temps de la grâce dans lequel nous vivons. Et nous te demandons, bénis tous ceux qui ont levé leurs mains, sauve ce qui est perdu. Délivre ce qui est lié, guéris ce qui est malade et confirme ta parole parmi nous, dans la vie de ceux qui maintenant regardent à toi, viennent à toi. Car celui qui vient à toi, tu ne le rejetterais pas, tu ne le rejetteras pas. Non, il est écrit, tous ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en ton nom. Bien-aimé Seigneur, accorde la foi en ton nom. Par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha, particulièrement aux jeunes, que cela soit le jour que tu as fait pour eux. Et ensuite, je te demande, bien-aimé Seigneur, ouvre l'intelligence pour les Écritures à tous les frères dans le ministère et à tous les croyants, dans tous les pays et dans toutes les langues. Que toi-même, tu puisses ouvrir la compréhension pour les Écritures et conduis-nous dans ta parole, dans ton dessein du salut, dans ton amour divin. Accorde-nous à tous l'amour pour la vérité, l'amour pour toi, pour ta parole et les uns pour les autres, pour que le monde puisse reconnaître que nous sommes tes disciples. Ô Seigneur, accorde des cœurs reconnaissants, accorde la louange et l'adoration ô Dieu. Ensemble, nous élevons nos voix pour te remercier, pour t'apporter la reconnaissance. Tu es fidèle, tu es digne, ô toi, agneau de Dieu, tu es digne. Tu as pris le livre, tu as brisé les sceaux, tu as ouvert tous les mystères. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22. Tu as envoyé ton serviteur le prophète. Nous te remercions de ce que son message, qui est ta parole, va dans le monde, compréhenseur. Ta parole va dans le monde, compréhenseur, avant le retour, avant ton retour. Ainsi, nous avons la grâce de reconnaître que maintenant nous vivons dans le dernier apse du temps de la grâce et que le Seigneur, parmi son peuple, fait l'histoire du salut. Ô grand Dieu, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le Dieu vivant, tu es présent parmi nous. Aussi certain que tu parles avec nous, aussi certain tu sauves, tu guéris, tu délivres et tu bénis. Tu accordes la révélation par ton Saint-Esprit. Loué et exalté es-tu, Seigneur, toi, Dieu éternel fidèle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es notre Dieu. C'est à toi que nous donnons l'honneur, à toi seul, pour tout, aussi pour le dernier message et pour le dernier messager. Nous te donnons à toi seul l'honneur. Et c'est à toi que nous disons merci de tout notre cœur. Que ce ne soit pas seulement qu'un messager vint pour préparer ton chemin, mais que maintenant, un message de toi, le Dieu Tout-Puissant, a été envoyé, qui va dans le monde entier, bien-aimé Seigneur, comme précurseur de ton retour. Ô grand Dieu, je crois cela par conviction que tous ceux qui maintenant écoutent ta parole sont déterminés à former l'épouse et qu'ils sont les fils et les filles de Dieu qui ont trouvé grâce auprès de toi. C'est ainsi que nous te demandons ensemble que tu puisses achever ton œuvre de rédemption dans ton Église, et cela par ton amour divin. Nous te remercions de ce que nous avons la grâce d'écouter, ce que l'Esprit maintenant dit à l'Église. Aussi, l'enseignement et la correction, nous te remercions pour tout. Bénis ta parole dans tous ceux qui écoutent ta parole, dans les différents pays, dans tous les continents, dans chaque ville, dans chaque pays. Bénis toi-même, ton peuple, par ta grâce, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout le peuple dise Alléluia. Que tout le peuple dise Amen.
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 Oh, je veux voir celui qui est mort pour moi. J'entends encore, je l'aime, je l'aime. Maintenant en anglais, nous chantons. Amen. Avez-vous accepté la parole? Alors soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ. S'il y a des frères et des sœurs ou bien des amis qui sont ici qui désirent la prière, vous pouvez rester et venir devant. Nous allons ensuite prier pour vous individuellement. Si vous voulez consacrer votre vie au Seigneur, vous avez ce souhait qu'on puisse prier pour vous, sentez-vous libre de venir devant. Frère Schmitt va encore prier avec nous. Très bien. Grand Dieu, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité. Que toi, le Dieu Tout-Puissant, est le seul vrai Dieu. En Jésus-Christ, notre Seigneur, tu t'es manifesté, Seigneur du ciel, toi qui nous as délivrés, tu nous as accordé la grâce. Nous te remercions de ce que tu as parlé avec nous et que tu t'es révélé à nous. De ce que tu t'es révélé à nous, toi qui as le nom qui est au-dessus de tout nom, accorde-nous ta grâce, accorde aussi la grâce à tous ceux qui écoutent, accorde ta grâce aussi à tous ceux qui vont encore l'écouter, ô Dieu. Bénis chaque cœur, chaque âme. Et délivre, Seigneur, de tous les liens de l'adversaire. Car qu'est-ce que ce monde a à nous accorder? Rien du tout. Je te remercie de ce que toi, tu nous as accordé tout. Tu nous as offert tout. De ce que, de la plénitude de ta grâce, tu nous as accordé toutes les richesses qui existent et qui ont existé. Je te remercie. Dans ton sang et dans ta vérité, nous sommes justifiés et rachetés. Amen. Est-ce que le frère sera là encore demain? Est-ce que le frère T est encore là demain? Il est à Bruxelles. Pardon? Il repart ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et beaucoup de salutations à ta congrégation et à tous au Ghana et dans la contrée. Que Dieu vous bénisse richement. J'étais très heureux que tu sois ici ce soir lors de cette réunion. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous partout. C'est notre prière. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que chacun salue. Oui. Dites, je t'aime. Que Dieu te bénisse. Oui, bien sûr.